bien sûr. Chanson Festa Radio, la radio du Vigan. Une émission réalisée par les collégiens du collège André Chanson.
Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Chanson Festa Radio. Je suis Emma et je serai accompagnée de Eulalie pour vous guider tout au long de votre écoute. Au programme cette fois-ci, nous aurons tout d'abord Camille qui nous parlera des inconnus.
Suivi de Guillaume qui nous présentera l'histoire de Minecraft. À la suite de ça, Emma arrivera avec une nouvelle chronique littéraire pour ne pas changer les habitudes.
Et juste après, Suzanne enchaînera sur Harry Potter 8.
Pour vous laisser respirer un peu, parce qu'on sait que rester concentré plus de 10 minutes, c'est compliqué, Martin nous proposera une pause musicale.
Nous reprendrons avec Kylian et sa chronique sur le poker.
Suite à quoi, Dounia nous parlera d'équitation.
Puis Eulalie, tu nous présenteras une chronique mode comme d'habitude. Et nous aurons ensuite une chronique sur les dithiques bordés par Romain.
Ne nous demandez pas de quoi il s'agit, on ne le sait pas non plus. Ensuite, Selena et Noah nous donneront leur avis dans une chronique sur les serviettes hygiéniques.
Puis, tel un super-héros, Martin sera de retour pour une autre pause musicale écrite par Talia.
Pour la dernière partie de l'émission, Lautaro débarquera joyeusement avec sa passion pour le VTT.
Vous êtes toujours sur Chanson Fessa Radio!
Léo, sur la lancée de Romain, nous parlera animaux avec une chronique sur les blobfish.
Juste après cela, Loane et Léo nous expliqueront ce qu'est le parcours.
Et nous conclurons notre émission sur une chronique sociétale de Nine sur le jugement et les critères physiques.
Vous êtes toujours sur Chanson Fessa Radio!
Enchaînons tout de suite avec notre première chronique. Alors Camille, ils étaient si inconnus que ça, les inconnus ?
Bonjour, je vais vous parler des inconnus. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, les inconnus sont un groupe de 3 humoristes, assez connus, mais plus connus par les « vieux », entre guillemets. Le groupe s'est créé en juin 1984. À la base, le groupe était composé de 5 personnes, Seymour Brussel, Simon, Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Mais ensuite, Seymour Brussel et Simon sont partis et Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus sont restés. Mais vous les connaissez certainement. Si je vous dis « Manu, tu descends ?» ou « Ah mort, Louis Croivet bâton !» ou encore « C'est toi que je t'aime !» vachement beaucoup. Ou alors « Auteuil ne y passi, c'est pas du gâteau !» Auteuil ne y passi, tel est notre ghetto. Ou Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Ça vous dit quelque chose? Tous ces sketchs et musiques, et plus encore, ont marqué l'histoire. Je vais vous parler en particulier de leur sketch L'Hôpital, car c'est comme ça que j'ai découvert Les Inconnus. Ils essayent de faire comprendre aux gens l'incompétence des hôpitaux à l'époque, en caricaturant et exagérant un peu, bien sûr. Dans ce sketch, il y a Campan, Bourdon et Légitimus. Je pense qu'ils ont dû bien s'amuser à tourner ce sketch. Ils ont aussi fait des films, comme Les Trois Frères, Le Retour, Le Paris, Les Rois Mages, Madame Irma et plus encore. Mais sans plus attendre, quelques extraits de leur sketch.
Hey Manu ! Hey Manu ! Putain ! Oh, shit ! Hey Manu ! Hey Numa ! Mais putain, mais qu'est-ce qui glande, il fait chier, merde, pas tant de trois plombes.
Ouais. Non, c'est mon nouveau parfum, ça.
Ah ouais, c'est sympa.
Ah
oui. Oh, puis alors, t'as des posters complètement déments. Oui. Oh, ils sont super, tes posters. Ah, celui-là, j'aime moins, par contre.
Ah, ça, c'est le miroir, fais gaffe, quand même.
Hein. Ouais. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse.
Oui.
Y a la chambre 106 qui s'allume, c'est pour toi.
Ah, je pas encore, d'accord.
Y a la 106 qui s'allume, c'est pour toi.
Voilà, j'ai terminé ma chronique. J'espère qu'elle vous a plu.
Merci Camille pour nous avoir fait découvrir cette référence culturelle.
Nous allons à présent écouter la chronique un peu spéciale de Guillaume sur Minecraft, ce jeu qui est également une référence culturelle. Je te ferai dire, hein.
Bonjour, je participe à nouveau à cette émission pour vous parler cette fois-ci de Minecraft, qui est un jeu de base, un jeu de survie dans un monde cubique. Minecraft est sorti le 18 novembre 2011. Depuis cette date, ce jeu est passé de la version 1.0 à la 1.18. Il y a eu différentes versions du jeu. Je vais vous en présenter quelques-unes. La 1.4 est une mise à jour effrayante. La 1.5 rajoute ce qu'on appelle la redstone, l'électricité de Minecraft. La 1.19 est une version spécialisée dans le PVP, combat au corps à corps. La version 1.14 est cruciale car elle rajoute des villageois et des pillards. Les chefs qui peuvent dropper, c'est-à-dire jeter, un totem d'immortalité. La version 1.17, appelée Cave et Cliff, première partie, rajoute des grottes magnifiques ainsi que des montagnes. La version 1.19 ajoute un boss qui s'appelle Warden et qui réagit à tous les bruits Minecraft. Il y a une légende disant que quelqu'un hante Minecraft. Herobrine. Il serait l'incarnation du frère décédé de Notch, le créateur de Minecraft. Une personne dans sa map de base l'aurait vu dans le brouillard, un avatar basique aux yeux vides. L'avatar fuit et disparaît à jamais. Le but de Minecraft est de tuer l'Ender Dragon. Il se trouve dans une dimension parallèle appelée l'End. Minecraft, à ses débuts, a été utilisé pour l'école en technologie. Les serveurs que je préfère sont Palladium. Le premier serveur français est un serveur PVP, combat au corps à corps, et faction, équipe. Hypixel est un serveur qui regroupe plein de mini-jeux comme Bed Wars, Build Battle, TNT Wars. Les meilleurs youtubeurs Minecraft? Furious Jumper, 4 millions d'abonnés. Fuse 3, 2,34 millions d'abonnés. Diabolofit 35, 957 000 abonnés. Les plus importants, Bangaro, 17 abonnés, c'est moi en fait, et un conseil, allez me voir. Chapip, 16 abonnés. Minecraft, quel jeu incroyable! Minecraft est le jeu vidéo le plus joué au monde. En 2020, on répertorie 126 millions de joueurs. Les conseils que je vais vous donner sont primordiaux. Ne jamais creuser sous ses pieds. Évitez les creepers qui peuvent vous exploser à la figure. Ne pas frapper les villageois. Car les golems de fer sont leurs protecteurs et ils peuvent nous monter en l'air. Les Endermen, il ne faut jamais les regarder dans les yeux car ça les rend fous. Ils se téléportent et détestent l'eau. Il y a aussi un site officiel de création de skins appelé NovaSkin. Je vous le conseille sur PC, la Java Edition, car c'est l'original. Elle est à 23,5€ et c'est un super jeu vidéo. C'est un jeu qui peut se jouer en local ou en ligne, donc c'est fun. Nous allons donc passer à un quiz avec Lohan. Quel est l'item qui permet de trade avec les villageois?
Les émeraudes.
Comment obtient-on un totem d'immortalité?
En tuant un chef pillager.
Et comment obtient-on la tête de l'Ender Dragon?
Dans les NCT.
Merci, Lohan, pour le quiz. C'est la fin de cette chronique. J'espère que tu as aimé cette chronique minecraftienne. Et à la prochaine!
Vous êtes toujours sur Chanson fait sa radio.
Eh ben dis donc, je n'aurais jamais imaginé qu'il y ait une telle histoire derrière ce jeu vidéo.
Maintenant, Emma va nous parler d'un manga. D'un manga, bien sûr, évidemment. D'un manga. Allez, c'est à ton tour.
Bon, avant tout, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de cœur manga que j'ai eu dernièrement. Pour replacer le contexte, il faut tout d'abord que je vous explique quelques petits trucs. J'ai entendu parler de ce manga durant l'été 2020, mais ce n'est qu'un an plus tard, soit il y a quelques mois, que je l'ai enfin trouvé en librairie. Et il y a quelques semaines, en continuant ma lecture et en redécouvrant l'histoire, une furieuse envie de vous en parler durant une chronique m'a prise. Alors paf, j'ai supprimé ce que j'avais écrit ces dernières semaines et j'ai commencé à vous rédiger ceci. Je ne laisse pas planer le mystère plus longtemps. Il s'agit du manga Éclat d'âme de Yuki Kamatani aux merveilleuses éditions Akata, dont je vous ai déjà vanté les mérites dans une précédente chronique. Ce manga, en 4 tomes, a été publié en France à partir de 2018 et j'ai estimé que ce chef-d'œuvre méritait plus de reconnaissance. Pour vous faire un rapide résumé, l'histoire se déroule dans la ville réelle, d'Onomichi, au Japon. On suit d'abord le quotidien de Tasuku Kaname, un lycéen. À quelques jours des vacances d'été, soit la fin du premier trimestre dans le système scolaire japonais, des camarades de classe du jeune homme découvrent des vidéos pornographiques gays dans l'historique de son téléphone. Tasuku, qui a toujours caché son orientation sexuelle, s'en retrouve totalement anéanti. Alors qu'il songe à mettre fin à ses jours, une étrange inconnue le guide jusqu'à un salon de discussion qu'elle tient. Là-bas, il rencontre plusieurs personnes dites différentes, entre gros guillemets, et les vacances d'été passant, Tasuku arrive à avancer et à prendre du recul. Toutefois, il reste difficile pour un adolescent d'assumer ses préférences lorsque le tabou de la société plane encore. Ce que j'ai tant aimé dans ce manga, c'est tout d'abord la vision réaliste des personnages LGBT qui ne sont pas du tout dans les clichés et luttent même contre, sans pour autant vouloir à tout prix se démarquer de la société comme certains l'imaginent. Par ailleurs, ils sont tous très humains et je trouve que cela aide beaucoup à se plonger dans la lecture, car on peut aisément se reconnaître dans plusieurs des personnalités et ou des difficultés rencontrées par les personnages. Autre fait notoire, et pas des moindres, les dessins. Alors oui, comme ça c'est un peu bateau et pas très explicite, mais étant donné que le manga est avant tout une bande dessinée, il n'y a pas que l'histoire qui compte. Tout d'abord, il y a le trait de l'auteur, qui est extrêmement doux et reposant. Il s'appuie sur des métaphores visuelles touchantes et poétiques, qui suivent le scénario et se retrouvent d'un chapitre à un autre avec une fluidité très agréable. C'est l'une des choses que j'ai le plus appréciées durant mes relectures de l'œuvre, qui sont par ailleurs nécessaires pour capter tous les éléments, aussi bien sur les planches que dans l'histoire. D'autre part, je trouve ce manga tout de même assez feel-good, malgré des hauts et des bas bien calculés par l'auteur. Calme, poésie et sécurité, c'est ainsi que je pourrais décrire la lecture de cette œuvre. Alors bref, vous l'aurez sûrement compris, c'est très vivement que je vous recommande Éclat d'âme, qui, comme je l'ai dit, a vraiment été un coup de cœur que j'ai eu, au détriment d'une chronique innocente violemment abandonnée au profit de celle-ci, mais nous n'en parlerons pas. C'est donc sur ce que je conclue pour cette fois en vous remerciant de m'avoir écouté jusqu'au bout et en vous disant à la prochaine.
Je vois que ça valait le coup de te supporter alors que tu cherchais désespérément les tomes dans toutes les boutiques qu'on a croisées.
Oui, ils étaient difficiles à trouver aussi, hein. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Nous allons à présent écouter Suzanne qui va nous parler du tome 8 de Harry Potter.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'Harry Potter 8. Je vais essayer de ne pas tout vous spoiler, mais je ne vous garantis rien. Donc, si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez le découvrir, je vous conseille de baisser le son de votre radio. Harry Potter 8 est le tout dernier de la série des Harry Potter. C'est l'histoire du fils de Harry, Albus Severus Potter, qui porte les mêmes noms que les directeurs de Poudlard dans les 7 premiers tomes. Ce livre est écrit en pièces de théâtre, mais a pu quand même être adapté en film. Il est sorti ce 1er janvier 2022. Ce qui a fait la joie des fans d'Harry Potter. Ce livre révolutionne les histoires des anciens Harry Potter, car on voit que le fils de Harry, Albus, n'est pas fier de son père, et que ce dernier n'est pas non plus un père facile à vivre pour son jeune fils. Albus ne ressemble en rien à son père, et il le vit très mal, car son grand frère, James, est le portrait exact d'Harry jeune, en plus orgueilleux. Pour finir, Albus est souvent rabaissé par ses camarades, qui le comparent à son père, car effectivement, il est totalement différent de celui-ci. Il est à Serpentard et son meilleur ami est le fils de Draco Malfoy. C'est sûrement ce qui le pousse à faire des choses irréfléchies et risquées. Ce livre évoque les sentiments que peut ressentir un enfant qui se sent mal dans sa peau et nous rappelle que notre avenir ne tient qu'à un fil et que tout peut changer pour un petit détail. Au revoir, j'espère que vous avez aimé cette chronique.
Bien que je ne sois pas fan du 8e tome, ta chronique était vraiment top, Suzanne.
Et à présent, pour vous laisser respirer un peu, Martin va nous présenter sa première pause musicale.
Aujourd'hui, il est temps pour moi de vous parler d'un univers qui me plaît particulièrement, tournant autour d'une série télévisée du nom de Hazbin Hotel. C'est même compliqué de parler de série, car pour l'instant, seul le pilote de la série est sorti, et ça fait plus de 2 ans qu'on attend toujours la première saison. Mais heureusement, d'autres œuvres en sont tirées, comme deux bandes dessinées ou une autre série en parallèle, Il ou va boss. Elle composée de 7 épisodes déjà, que vous pouvez tous retrouver sur YouTube. Mais revenons à nos démons, Car oui, Aspin Hotel se passe en enfer. Je ne vais pas vous résumer tout le pilote, mais on parle d'un monde après la mort, où se retrouvent tous les pêcheurs. On se retrouve alors avec une belle brochette de serial killers et d'alcooliques en tout genre. Mais ce qui m'intéresse surtout dans cette série, c'est la communauté qui s'est créée autour, plus particulièrement dans le domaine musical. En effet, en plus de chansons officielles, comme Addict, certains groupes ou chanteurs, en solo, se sont mis à créer des chansons et à les mettre en ligne. Et le résultat est tout aussi bon que les versions officielles. Pour vous en présenter quelques-unes, je me suis intéressée à un personnage en particulier que je trouvais plutôt bien adapté pour notre émission, Alastor, le démon de la radio en personne. Extrêmement populaire, il regroupe à lui-même plus d'une vingtaine de chansons de fans, comme Alastor's Game du groupe The Living Tombstone, qu'on retrouve même une traduction en français. I got a game I wanna show you. If I tell you my name, you'll have to play too. I've been here for years, biding my time, waiting in prime. Until I could find you, to sign on the line and we can be friends. I'll be here for you until your world ends. Enjoy all your toys, I will supply. You only live once, and you'll be mine the day you die. I'll have my payment. Mais si j'ai vos cœurs différents, si vous doutiez de notre serment. Pour info, c'est la chanteuse, illustratrice et traductrice Sainte Seiya qui s'est occupée de faire cette version en français. Je vous invite fortement à vous balader sur internet et découvrir toutes les variantes de cette série, ainsi qu'Elouva Boss, qui me plaît tout autant. Si les fans sont toujours aussi productifs, on aura peut-être des concerts de Aspin Hotel avant même que le premier épisode ne soit sorti. Pour terminer ma chronique, on va écouter jusqu'au bout cette fois une autre chanson de fan. Mais celle-ci a la particularité d'avoir été écrite et chantée par Gabriel Brown, alias Black Griffin, qui n'est personne d'autre que la voix officielle de Alastor dans le pilote. Mais cette chanson n'est pas dans le pilote, si vous suivez bien. Il y a de quoi rendre fou, je sais. D'ailleurs, la chanson s'appelle Insane. Bonne écoute depuis les enfers sur Chanson Fait Sa Radio. Dearly beloved, for your entertainment, it's my pleasure to introduce to you Hell's latest arrival, the equal opportunity killer, Alastor! Hello, it's nice to meet you. Can you tell me where I am? I don't know how I got here, but I think I'm starting to understand. I don't belong among the angels, and maybe that's just fine with me. The things I did up there were high school, but now I'm going for my degree. Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. That makes me insane. Haven't been the same since I expired. Weren't you an old pal of mine? Departed from us far too early, but now we're meeting a second time. We used to have such fun together, and maybe you have what I need. But first I have one tiny question. Tell me, do you demons bleed? Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane? Haven't been the same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire. And now I have the power to breathe all of you in entertaining fire. Inside.
got in my way. I promise, honey, I can feel your pain. And maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane?
Vous êtes toujours sur Chanson fait ça radio.
Nous nous retrouvons donc après cette pause musicale, ma foi, très bien choisie.
D'ailleurs, nous allons enchaîner avec Kylian et sa chronique sur le poker.
Bonjour, aujourd'hui je reviens sur cette émission pour vous parler du jeu nommé le poker. Le poker est une famille de jeux de cartes comprenant de nombreuses formules. Il se pratique à plusieurs joueurs avec un jeu généralement de 52 cartes et des jetons représentant les sommes misées. Au début du jeu, tu as 2 cartes et le croupier a 5 cartes sur sa table. Après, il les retourne et ce sera à toi de former tes cartes pour avoir une plus grande main que tes adversaires.
C'est quoi les règles du poker ?
Au poker, chaque joueur est à son tour d'honneur. Il distribue les cartes pour la table. Au casino, c'est le croupier qui s'en charge. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est le croupier. Le croupier du poker sont responsables du bon déroulement de la partie et du maintien du rythme de cette dernière. Je vais revenir sur là où je me suis arrêtée. Un bouton blanc marqué d'un dé permet d'identifier le donneur. Après chaque tour, ce bouton se déplace au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, je vais vous parler des combinaisons de cartes pour le débutant. Au rang 10, c'est la carte haute isolée, l'as. Au rang 9, c'est la paire, une même carte que l'autre, par exemple, deux cartes de 2 ou de roi, etc. Au rang 8, c'est la double paire, deux cartes pareilles et deux autres cartes pareilles. Par exemple, 2 cartes de 2 et 2 cartes de 10. Au rang 7, c'est le brelan, 3 cartes pareilles. Par exemple, 3 cartes de 3. Au rang 6, c'est la suite quinte. Par exemple, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 et 1 6. Au rang 5, c'est la couleur flush. C'est 5 cartes de la même couleur et du même signe. Au rang 4, c'est le full, 3 cartes pareilles et 2 cartes pareilles. Exemple, 3 dames et 2 cartes de 6. Au rang 3, c'est le carré. 4 cartes pareilles et une carte normale. Exemple, 4 cartes de roi. Au rang 2, c'est la quinte flush. 5 cartes du même signe et du bon ordre. Exemple, 8, 9, 10, valet et une dame de cœur. Et pour finir, c'est le gros lot. C'est la quinte flush royale. C'est une grande suite du même signe et de la même couleur. Exemple, un 10, un valet, une dame, un roi et la carte la plus haute, l'as.
Comment bien démarrer au poker ?
Au poker, tu commences avec 5 cartes pour les débutants et au casino, tu n'as que 2 cartes. Si tu as 2 valets et que sur la table du croupier, il y a 2 cartes de valets, tu as le brelan, donc tu gagnes facilement. Mais si ton adversaire a 2 dames ou 2 rois et que sur la table du croupier, il y a 2 cartes ou 2 dames ou 2 cartes de rois, il gagne la main plus haute que toi. J'ai fini cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu et bonne continuation. Au revoir.
Merci Kylian, j'ai enfin réussi à cerner les règles de ce jeu mystérieux.
Nous allons tout de suite écouter Dounia qui va nous emmener galoper sur les ondes avec sa chronique sur l'équitation.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Dounia. Aujourd'hui je vais vous parler des chevaux et de l'équitation. Donc commençons. Les chevaux sont des mammifères. Ils font partie de la famille des équidés. Un centre équestre est un lieu où on s'occupe des chevaux. Et où on les monte. Enfin, faut quand même payer. En moyenne, l'équitation coûte à l'année minimum 500 euros. Donc oui, l'équitation, je ne peux pas le nier, coûte excessivement cher. C'est un sport dédié à tout le monde. Si vous ne le savez pas, il existe aussi des centres équestres spécialisés pour aider les personnes handicapées. Ça s'appelle l'équithérapie. Pourquoi ? Car les chevaux sont des éponges à émotions. C'est-à-dire, quand par exemple tu es triste, le cheval va le ressentir et donc va avoir tendance à plus venir vers toi, à avoir les oreilles en avant. Oui, car le cheval s'exprime principalement par les oreilles. Exemple, quand il est énervé, il a les oreilles en arrière. Quand il est attentif, les oreilles sur les côtés. Et quand il est joyeux, les oreilles en avant. Mais il peut s'exprimer aussi avec ses sabots. Les sabots sont les pieds du cheval. Exemple, quand il a faim, il tape du pied. Quand on s'approche trop de derrière lui, il ne peut pas être content et vous donner un coup de sabot. Passons maintenant à l'équitation. C'est donc un sport. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas un sport, mais un loisir. Mais c'est bel et bien un sport. Moi qui en fais, je sais que le lendemain ou 48 heures après, j'ai beaucoup de courbatures. D'après mes recherches, l'équitation fait travailler plus de 300 muscles. En équitation, on peut passer aussi nos galops. Vous dites peut-être, c'est quoi ce truc ? Eh bien en fait, c'est comme des diplômes, mais en équitation. Il n'y en a pas qu'un, mais 7. Après, il y a aussi les disciplines. Il y a comme discipline le saut, le dressage, qui est quand on évalue la performance du cheval et du cavalier, le cross, qui est quand tu sautes dans la nature, et la voltige, c'est quand tu fais des figures sur le dos du cheval. Ça, c'est les disciplines les plus basiques. Dans le centre équestre, quand tu montes, tu vas dans une carrière ou un manège. Une carrière est un endroit assez grand, entouré de barrières en bois et avec du sable au sol. C'est un espace non ouvert. Un manège, c'est pareil, mais c'est à l'intérieur. Je pense que je vous ai dit assez de choses. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné envie de faire de l'équitation.
Chanson fait sa radio, réalisée par les élèves du collège André Chanson, diffusée sur Radio Escapade 104.1, 102.0, 103.3 et pour le reste du monde, .org.
Merci pour cette chronique, elle me rappelle tellement de souvenirs.
Alors c'est bien beau tout ça, mais Eulalie, laisse-moi te rappeler que tu n'as pas trop le temps de rêvasser, car c'est à ton tour avec ta chronique mode.
Merci de me ramener à la réalité. Bon, effectivement, comme à mon habitude, je poursuis les chroniques mode. Bien qu'aujourd'hui, je crois que je sors un peu du sujet, mais c'est à vous d'en juger. Je ne vais pas parler de style vestimentaire, de costumes ou d'accessoires. Aujourd'hui, je vous propose un rapide aperçu de ce qu'est le cosplay et de sa place en France et au Japon. D'abord, pour ceux qui n'auraient pas suivi au dernier rang, qu'est-ce que le cosplay ? Tout est dit dans le mot « cos » de costume, « play » de jouet, le cosplay. On pourrait traduire ça par « se déguiser », mais tel qu'on l'emploie aujourd'hui, ces deux mots n'ont pas exactement la même signification. Le cosplay vise d'abord à incarner un personnage fictif précis, d'un jeu vidéo, d'un film, d'un manga, etc. Il a un sens aussi un peu plus sérieux. Le cosplay reste une passion, mais pour les plus audacieux, un cosplay peut prendre des dizaines d'heures de travail et des litres de sueur. Cette image m'a dégoûtée tout en seul en le disant. Alors, on comprend pourquoi qualifier un cosplay de « déguisement », ça doit faire mal aux concernés. Ne vous trompez pas la prochaine fois que vous en verrez un. Le deuxième point intéressant que je voulais aborder est la différence de l'usage des cosplays dans les différents pays. Le Japon est un cas assez particulier. Et comme ça n'aurait pas beaucoup de sens de le comparer à l'Allemagne, j'ai, par pur hasard, choisi de le comparer à la France. Petit point dans notre pays. Les cosplays, majoritairement exploités par les adolescents jeunes adultes, se retrouvent surtout sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok et Instagram. Vidéos humoristiques, interprétations des personnages quotidiens, de quoi ravir les fans de l'univers en question. Pour les plus chanceux, ce contenu peut ramener un petit revenu chaque mois, mais à ma connaissance, rien qui permette de subvenir à ses besoins. On retrouve aussi énormément le cosplay en convention. C'est en fait là que la plupart des cosplayers se rencontrent et établissent des liens. Rapidement, les conventions sont des événements qui réunissent des passionnés souvent dans un univers lié à Internet. Évidemment, là je vise particulièrement les conventions d'anime et manga. Maintenant que tout le monde cerne un peu mieux comment est pratiqué le cosplay chez nous, je vais à présent vous illustrer rapidement comment cela se passe au Japon. Je tiens à préciser que, pour cette chronique, mes sources me viennent pratiquement que de la chaîne YouTube de Louis San. D'ailleurs, si vous vous intéressez au Japon et à sa culture, ces vidéos sont faites pour vous. C'est Louis San. Je répète, c'est Louis San. D'abord, la façon même de se cosplayer est assez différente. Là-bas, en cosplayant, on veut ressembler au maximum au personnage avec des tas d'artifices absolument bluffants. Regarder un cosplayer japonais avant et après son maquillage, c'est simple, impossible de le reconnaître. Chez nous, par contre, on va plus souvent mettre en avant le fait d'humaniser un personnage. Le maquillage est toujours énormément utilisé, mais chacun ajoute sa propre touche personnelle. Je trouve cette façon de cosplayer plus attractive et surtout plus créative, mais ce n'est évidemment que mon opinion. Pour revenir aux conventions, si en France, il doit y en avoir environ 2 par an dans les grandes villes, comme Montpellier, au Japon, c'est une fois par mois. En France, on fait des free hugs, on prend des photos, on échange des numéros. En général, c'est plutôt convivial. Là-bas, c'est un peu plus strict. Interdiction de prendre les photos des cosplayers, la plupart des photos sont payantes et se passent en extérieur. Des foules entières de photographes s'amassent autour d'eux, tellement ils sont populaires. Évidemment, ça sonne un peu bizarre, surtout lorsqu'on voit des jeunes filles entourées de cette façon. Mais en même temps, avoir ce type de règles permet de balayer plus facilement toute personne dangereuse et de régulariser les photos qui pourraient tourner d'un cosplayer. Les agressions ne sont pas inexistantes, mais elles ne sont pas moins présentes en France. Je suis contente d'avoir abordé ce sujet avec vous et j'espère avoir pu retenir l'attention des personnes qui ne connaissaient pas et avoir pu donner de nouvelles infos aux déjà passionnés.
Merci Eulalie, comme d'habitude tes chroniques sont super intéressantes. Mais là, on passe à un sujet beaucoup plus scientifique. Avec Romain, c'est à toi.
Bonjour, je fais mon comeback en vous parlant encore une fois d'une bestiole. Bon reportage. Dicticus marginalis est un coléoptère, c'est-à-dire un scarabée, mesurant environ 3 cm de la famille des Dicticidae, souvent appelé dictique bordé, car le bord de son corps est bordé d'une ligne blanche. Principalement aquatique carnivore, on le trouve dans les marais, les mares, les rivières, et géographiquement dans toute la France, en Amérique du Nord, en Asie centrale, au Japon et en Europe. Cet insecte est particulièrement féroce. En effet, il a des pattes arrière palmées pour nager plus vite, des mâchoires déchiqueteuses. Attention, il est capable de mordre. Une solide cuticule, c'est-à-dire la peau de l'insecte, capable de produire un liquide nauséabond, peut aussi respirer sous l'eau en gardant une bulle d'air sous son ventre. Un corps aplati pour être encore plus rapide, et pour couronner le tout, il est capable de voler. D'ailleurs, c'est l'un des plus gros dictiques européens. Grâce à sa grosse taille, il peut se nourrir de vers de vase, de larves de libellules et d'un tout de tas de bestioles diverses et variées. Mais il peut aussi attraper des petits vertébrés, comme des poissons, des têtards et des têtards. Mais leurs larves, c'est encore pire. Une fois enfoncées dans une plante près de l'eau, les œufs vont se développer quelques jours. Puis, des larves sortent et vont vivre leur vie dans l'eau. Mais vous allez voir, ce ne sont pas des gentilles. Tout d'abord, elles sont équipées de puissantes mâchoires respiratrices, de 6 petites pattes et d'une grosse nageoire à l'arrière pour nager plus vite. Attrapent leur proie avec une grande férocité et elles sont même plus longues que les adultes. Pour le dîner, c'est comme les adultes, mais elles sont cannibales et n'hésitent pas à dévorer les adultes. Une fois au stade terminal, la larve s'enterre sur une berge et se nymphose. Puis, au bout de quelques temps, un magnifique Dicticus marginalis adulte sort de terre et va vaquer à ses occupations. Mon reportage est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, bonne journée.
Merci beaucoup Romain. À présent, nous pourrons donc nous vanter de connaître les dictiques bordés.
Et maintenant, Selena et Noah vont parler de menstruation avec les serviettes hygiéniques.
Bonjour, je m'appelle Noah.
Et moi, Selena. Aujourd'hui, nous allons vous parler du besoin de serviettes hygiéniques dans les établissements scolaires.
Par exemple, dans notre collège à l'infirmerie, il y a un distributeur de préservatifs.
Petite précision, les préservatifs servent plus à faire des bombes à eau que plutôt de se protéger.
Mais du coup, dans ce cas-là, nous aurions plus besoin de serviettes que de préservatifs, sans compter que les préservatifs, on les trouve un peu partout, alors que les serviettes, beaucoup moins.
Nous en avons surtout besoin quand nous n'avons pas. L'infirmière en a, mais ça peut être un peu gênant pour les filles pudiques.
Il faudrait en installer dans tous les établissements scolaires, mais aussi dans la rue.
C'est bien vrai tout ça, mais parlons des prix des serviettes, c'est quand même bien cher.
Tout à fait d'accord, sans compter que le prix est de 2 euros environ et qu'il faut les changer environ toutes les 3 heures, voire 6 heures.
Savais-tu qu'en 2017, le journal Le Monde a déclaré qu'une femme dépense en moyenne 1730 euros dans sa vie ?
Ah ouais, quand même, ça envoie du lourd.
Et ouais, on ne réalise pas que c'est tout un salaire.
Les serviettes devraient être gratuites car les femmes ne peuvent pas cesser d'avoir leurs règles.
Une petite pensée aux femmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des serviettes hygiéniques.
Nous espérons avoir ouvert les yeux sur cette problématique.
Merci et à bientôt.
Super, merci beaucoup les filles. C'était vraiment intéressant de voir des collégiennes prendre la parole sur ce sujet.
Maintenant, c'est une nouvelle fois à Martin, avec la pause musicale écrite par notre fan de David Bowie local, Talia, qui n'est malheureusement pas avec nous pour enregistrer.
Et oui, je suis de retour aujourd'hui pour vous parler de David Bowie, ou plus précisément, d'un de ses nombreux personnages, Ziggy Stardust, et de son album Aladdin Sane. On connaît principalement David Bowie par sa musique, mais également pour son aspect artistique. David Bowie, l'homme aux multiples visages, a incarné Ziggy Stardust lors de la sortie de son album Aladdin Sane, sorti le 13 avril 1973. Un album dans le genre glam rock qui fait disque d'or dès sa sortie à Londres. Mais concentrons-nous sur le personnage de cet album. Ziggy Stardust, un extraterrestre androgyne à la chevelure rouge flamboyante et aux habits moulants colorés. Ce personnage annonçant également la bisexualité de l'artiste qui n'a pas plu aux Américains lors de sa tournée aux États-Unis. Les villes du Sud étaient effectivement très réticentes à accepter l'ambiguïté sexuelle de ce dernier. Jouant sur cette image de mec cinglé, différent et j'en passe, c'est ainsi qu'il a eu l'idée de composer le nom de cet album. En décomposant Aladdin Sane par A Lied Insane, qui se traduit par un mec cinglé, et Sane par sans d'esprit. On observe un double sens. Un double sens pas anodin, puisqu'il est aussi très présent dans les paroles des titres de cet album. Crooked Actor, sorti le 13 avril 1973, parle d'une vedette hollywoodienne oubliée qui est réduite à faire appel au service d'une prostituée, avec de nombreux sous-entendus salaces. Les doubles sens sont également présents dans The Gin Genie, dont le titre est un jeu de mots sur le nom de l'écrivain français Jean Genet. Né en 1910 à Paris, Jean Genet est un écrivain français qui aborde souvent dans ses ouvrages l'homosexualité et l'érotisme à travers un personnage ambivalent. Écoutons alors The Gin Genie, sorti le 24 novembre 1972. Small Jean Genie snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Gin Genie lives on his back. The Gin Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. The Gin Genie, let yourself go. Smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Loves to belong.
Merci Martin pour cette belle lecture de la chronique de Talia.
Maintenant, on part faire un tour avec Lautaro et sa chronique sur le VTT.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du VTT et tout ce qu'on y retrouve. Le VTT, ou vélo tout-terrain, est un type de vélo et aussi un sport. Quasiment tous les VTT sont équipés d'une fourche suspendue, donc d'une suspension à l'avant. Certains sont tous suspendus, c'est-à-dire qu'ils ont une suspension à l'avant et un amortisseur à l'arrière. Mais certains VTT n'ont pas de suspension. Bref, vous l'aurez compris, il y a plusieurs sortes de VTT et les voici. Le cross-country, X-country ou simplement XC, c'est de la course sur des chemins légèrement accidentés. On utilise pour ça des VTT semi-rigides, donc avec seulement une suspension à l'avant. Ce sont souvent des suspensions à faible débattement. Le débattement, c'est tout simplement la profondeur en millimètres à laquelle va s'enfoncer la fourche. Les cross-country ne dépassent pas les 120 mm de débattement, donc 12 cm. L'enduro, c'est un vélo comme le cross-country, sauf qu'il a un bien meilleur débattement. Les meilleurs VTT enduro atteignent les 180 mm à l'avant et à l'arrière. Dans l'enduro, on fait autant de montées que de descentes. D'ailleurs, ça s'appelle enduro parce qu'il faut beaucoup d'endurance. Le DH, c'est un vélo proche... c'est un vélo proche de l'enduro, sauf qu'il a des meilleures suspensions. Jusqu'à 215 mm à l'avant et 250 à l'arrière. D'ailleurs, DH en anglais, ça veut dire downhill. Donc descente, parce que ce sont des vélos spécialisés dans la descente et, donc la vitesse. Le VTT trial, à ne pas confondre avec le VTT trail, qui est un mélange d'enduro et de cross-country. Le VTT trial, c'est un vélo qui n'est pas suspendu, le plus souvent avec des roues de 20 pouces, 24 voire 26. Ce vélo est fait pour franchir des obstacles, jusqu'à environ 1,50 m pour les pros. Ce vélo a des freins à patins, c'est important de le préciser parce qu'il existe d'autres vélos parfois sans freins, qui ne seront pas abordés dans cette chronique. Il y a ensuite le street trial, très proche du VTT trial, sauf que le street trial a des freins à disque hydraulique, des freins bien plus précis et puissants. D'ailleurs, ce sont les mêmes freins utilisés pour les autres VTT, sauf pour le VTT trial. Il a aussi toujours des roues de 24 ou 26 pouces. Avec, on peut faire des sauts, mais aussi plein d'autres tricks, complexes. On peut aussi faire du street trial en skatepark et faire les mêmes figures qu'en BMX. Cette chronique est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir.
Merci Lautaro, tu nous en as beaucoup appris toi aussi.
Et je pense que Léo a aussi plein de choses à nous dire sur les Blobfish et leurs leaders. C'est à toi.
Bonjour, me revoilà sur la radio et aujourd'hui on va parler des Blobfish, qui sont les poissons les plus moches du monde.
Le Blobfish c'est quoi ?
Le Blobfish, ou aussi Psychrolutes marcidus, est un poisson appartenant à la famille des Psycholutidae.
Quelle est la nourriture du Blobfish ?
Il mange principalement des pénatules, des escargots de mer ou des crabes. Il peut aussi se nourrir de neige marine, cette substance qui tombe en permanence sur le fond de la mer depuis la surface.
Quelles sont les habitudes du Blobfish ?
Les habitudes du Blobfish sont mal connues car très peu ont pu être observées dans leur milieu naturel.
Où vivent les Blobfish ?
Le Blobfish, littéralement poisson tache ou poisson goutte, Psychrolutes marcidus de son nom savant, vit entre 600 mètres et 1200 mètres de profondeur, au large des côtes australiennes et risque de disparaître en raison du chalutage intensif.
Pourquoi le Blobfish est moche ?
Il s'avère qu'il a de bonnes raisons d'être aussi laid. Son habitat l'a façonné ainsi. Le Blobfish vit dans les eaux profondes dans le sud-est de l'Australie et en Tasmanie. À ces profondeurs, la pression de l'eau y est écrasante.
Mais est-ce que le Blobfish se mange ? Sinon, pourquoi ?
Il est non comestible pour le genre humain. À cause de sa chair gélatineuse, le Blobfish n'est pas bon à manger. Il n'intéresse pas les pêcheurs. Pourtant, paradoxalement, il est victime de la surpêche. En effet, l'homme utilise des filets spéciaux, les chaluts, pour racler le fond de la mer et capturer les crustacés et les langoustes.
Est-ce que le Blobfish est en voie de disparition ?
Désolé, mais je te l'ai déjà dit, tu n'avais qu'à m'écouter. Mais il y a aussi le réchauffement climatique qui y joue. Au revoir les amis, et à la prochaine émission.
Merci beaucoup. D'habitude, on ne connaît les Blobfish que pour leur mocheté, c'est donc intéressant de les voir autrement.
Vous êtes toujours sur Chanson Fait Ça Radio.
À présent, nous allons écouter Loan et Léo sur le thème du parcours.
Bonjour, c'est Léo, et je suis avec Loan. C'est sa première fois, alors soyez cool. Nous allons parler du parcours.
Oui, je suis un peu stressé, j'espère que ça va bien se passer.
Le parcours est une discipline sportive en milieu urbain.
C'est dangereux, il faut prendre des précautions.
Le parcours est effectivement très dangereux. Il y a beaucoup de chutes qui entraînent des blessures graves ou mortelles, car des personnes ne font pas attention ou n'ont pas bien étudié le terrain.
Le parcours se pratique principalement en ville, mais des personnes le pratiquent en forêt.
Cette discipline consiste à franchir des obstacles comme des murs, des murets, des barrières de façon acrobatique. Le parcours est apparu en banlieue parisienne au début des années 1990. David Bell est reconnu comme l'inventeur du parcours.
Il reste longtemps inconnu par le public et aux institutions sportives.
Le mot « parcours » est une référence au parcours du combattant. Le freerunning est apparu peu après le parcours. C'est la même discipline en plus acrobatique.
Le grand public désignait parfois le parcours par Yamakasi.
En 1998, David Bell et Sébastien Foucan se séparent du groupe Yamakasi. David Bell refonde un groupe appelé les Traceurs.
Les 7 autres membres des Yamakasi popularisent le parcours en France en 2001 grâce au film Yamakasi.
Vers 2006, de nombreuses associations voient le jour, un peu comme des clubs. Elles permettent aux gens de découvrir ce que c'est que le parcours et de le pratiquer.
On vous en a parlé parce qu'on en pratique et qu'on aime bien ça.
C'est fini, on donne la parole à Emma et Eulalie.
Merci de nous avoir écoutés et bonne journée.
Merci beaucoup les garçons, c'était super intéressant.
Et à présent, nous allons conclure cette émission avec une chronique de Nine sur le jugement et les critères physiques.
Bonjour, je m'appelle Nine. Dans cette chronique, je vais vous parler des critères physiques que l'on impose à la société aujourd'hui. Aujourd'hui, les critères physiques sont beaucoup moins stricts qu'avant. Par exemple, dans les années 80, quelqu'un de rond était mal vu. Aujourd'hui, même si cela provoque toujours des remarques désagréables, les rondeurs sont beaucoup plus acceptés dans la société. Mais je suis d'accord que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui se sentent mal à cause de personnes qui font de la chirurgie plastique. Pourquoi j'aborde le sujet de la chirurgie plastique ? Car aujourd'hui, la moitié de la population en a déjà fait. Cette pratique chirurgicale permet de se refaire faire une partie du corps pour que ça soit plus esthétique. Les grands champs d'activité de la chirurgie plastique sont chirurgie esthétique, chirurgie de la main, chirurgie crânofaciale, chirurgie des brûlés, chirurgie reconstructrice et chirurgie plastique pédiatrique. Je vous parle de la chirurgie esthétique. Les personnes prennent des photos de leur corps devenu le soi-disant corps de rêve et cela peut détruire la vie des personnes qui ne sont pas comme ça et qui se disent par exemple « je suis trop gros ou trop grosse, mon nez n'est pas assez fin », etc. Les réseaux jouent beaucoup dans l'histoire. J'identifie là Maeva Genam. Pour ceux qui ne le savent pas, Maeva Genam est une grande star de télé-réalité qui s'est fait entièrement refaire. Certains l'appellent même la femme plastique. Ce n'est vraiment pas un exemple à prendre. De toute façon, un corps naturel comme ça n'existe pas. Chaque année, la limite d'âge pour se faire opérer baisse. Bien que l'idée répandue est que seules les personnes ayant entre 30 et 60 ans peuvent demander une intervention en chirurgie esthétique, il n'y a en réalité pas de limite d'âge. Mais revenons au sujet de ma chronique, les critères physiques. Certains diront qu'il n'y en a pas, mais c'est faux. Même si aujourd'hui plus de choses sont acceptées, il y a comme une règle. Cette règle n'est pas obligée, c'est nous qui nous l'infligeons. Chaque jour, la plupart des filles passent 1h30 à se maquiller. 94% des Françaises se maquillent avant de sortir de chez elles. Pourquoi ? C'est la question que je me pose. Eh bien, j'ai une réponse à cette question. Ce ne sera peut-être pas votre réponse, mais c'en est une. Car on veut se faire belle, on veut que les gens nous complimentent, ne nous jugent pas, on veut avoir un beau visage. Car c'est souvent la première chose que les gens voient en vous regardant. Et le maquillage permet de nous illuminer le visage et aussi de cacher les imperfections de la peau. Je parle des femmes, mais on peut aussi faire la même chose avec les hommes. Pourquoi ils vont tous à la salle, ou la moitié ? Eh bien, pour les mêmes raisons. Pour qu'ils soient plus forts, pour qu'ils soient plus musclés, etc.
Après, moi aussi je me maquille, je me prépare. Je fais toutes ces choses que, entre parenthèses, je reproche. Je ne suis pas en train de juger tous ces gens car j'en fais partie. Mais je suis juste en train de constater. Mais si nous faisons ça, est-ce que ce serait pas de... Pas en réalité, pas... Mais si nous faisons ça, est-ce que ce serait pas de peur d'être jugé, moqué? Si vous avez pas pour les filles un beau visage, de beaux ongles, de belles formes, pour les garçons, de beaux muscles, de beaux abdos, etc., beaucoup de gens vont vous juger ou se moquer. Bref, c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai dit ce que je pensais, merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Nine pour cette conclusion d'émission qui pousse à la réflexion.
Chanson fait sa radio, réalisée par les élèves du collège André Chanson, diffusée sur Radio Escapade 104.1, 102.0, 103.3 et pour le reste du monde, .org.
Nous allons maintenant passer aux remerciements. Nous ne l'avons peut-être pas mentionné, mais nous enregistrons aujourd'hui cette émission au studio de Radio Escapade. Alors c'est tout naturellement que nous tenions à les remercier en premier.
Merci ensuite à Madame Bianchi, Madame Grondin et Monsieur Lejac qui ont permis cette sortie, et bien sûr à la technique et à tous les chroniqueurs pour ce dévouement à l'atelier et au club radio qui ont permis la réalisation de l'émission.
Sur ce, bonne journée à tous et à bientôt sur les ondes.
Réalisée par les élèves du collège André Chanson. On vous retrouve très vite pour une nouvelle émission.